mort le feu de l'éclair.
C'est comme culture du risque. Un accident est un événement imprévu et soudain, entraînant des dégâts corporels et matériels. Un accident est qualifié de majeur s'il y a un nombre élevé de victimes blessées ou de morts et des dégâts importants, s'il nécessite la mise en place d'importants moyens de secours et si l'accident provoque une pollution permanente ou de longue durée. Les accidents technologiques dont l'origine est l'activité humaine sont à distinguer des catastrophes naturelles. Voici une définition limpide donnée par le site Comme de Crise, conseil, formation et coaching en communication de crise. Comme de Crise est une agence de communication qui délivre ses bons conseils aux managers bien embarrassés quand la crise fut venue. Ils nous disent « La première étape de la gestion de crise se situe naturellement avant même qu'elle ne se déclare. Or, quoi de plus difficile que d'envisager le pire lorsque tout va bien ? Mais soudain, nous voilà sous les feux de la rampe. Dans certains cas, les événements sont réels. 40 enfants hospitalisés en 24 heures, c'est une réalité. Nous ne sommes plus alors dans le spectre de la rumeur, nous entrons alors brutalement dans la phase aiguë de la crise. Les tensions sont énormes du fait de l'irrationnel qui rentre en jeu face au rationnel des professionnels, à savoir nous, les managers. Les syndicats posent des questions, les journalistes sont en bas de l'entreprise, les salariés inquiets. Vous êtes entrés alors dans la phase aiguë de la crise, celle où communiquer non seulement est nécessaire, mais en plus est un exercice de haute voltige. L'idéal dans ce cas, c'est d'élaborer un question-réponse ou Q&A, comme disent les anglo-saxons, c'est l'outil de base de la gestion de la communication de crise. Il permet de répondre à toutes les questions, même les plus insignifiantes, des publics cibles, comme les journalistes, les salariés, les actionnaires. Il est essentiel de vite prendre la parole en cas de crise, même si nous disposons que de peu d'informations sur l'événement indésirable qui vient de se produire. En effet, c'est le premier qui parle qui marque les esprits. Les autres acteurs seront alors dans une position défensive. Comment faire alors pour s'exprimer vite, sans en dire trop, parfois en ne sachant pas grand-chose ? C'est toute la complexité de la communication de crise. Enfin, comment sortir de la crise et redémarrer en mode dégradé ? Vous n'êtes plus au JT, vous ne faites plus la une des journaux régionaux. Le réflexe commun consiste alors à retourner vite fait à votre quotidien en rangeant la salle de crise. Oui, mais voilà, cela ne suffit pas. Les salariés sont parfois en état de choc, les clients désertent, les actionnaires questionnent. Il faut restaurer la confiance des publics cibles en mettant en place un PARC, plan d'action de reconquête des cibles. Une véritable opération de séduction à coups de réunions avec les managers et les salariés, courriers aux actionnaires et aux élus, conférences dans les écoles et les collèges, affichettes dans les magasins, lettres dans le journal local, publicité, journées portes ouvertes, conférences de presse restreintes. Et puis, il faut revenir au travail, c'est-à-dire chiffrer le temps perdu et fixer de nouveaux objectifs pour relancer la motivation des salariés. Tout ça, le cul enfoncé dans son fauteuil en sky. Le site conseille également de s'adonner un petit relooking pour marquer le changement. Sur le site gouvernemental d'ARIA, analyse, recherche et information sur les accidents qui recense les accidents technologiques, on peut compulser l'argus des accidents en France. On peut s'amuser également à remplir un petit tableau récapitulatif des 18 paramètres d'un accident industriel comme un dirigeant de site Céveso. Ainsi, récapituler les matières dangereuses relâchées, à savoir la quantité de substances perdues ou rejetées par rapport au seuil Céveso et la quantité de substances explosives en équivalent charge TNT. Les conséquences humaines et sociales, le nombre de morts en fonction de leur catégorie, employés, sauveteurs extérieurs, personnes du public, le nombre de blessés légers et graves, le nombre de tiers sans-abri, le nombre de riverains évacués ou confinés chez eux, le nombre de personnes privées d'eau potable, d'électricité, de gaz, de téléphone, de transport public pendant plus de 2 heures, le nombre de personnes devant faire l'objet d'une surveillance médicale prolongée 2 mois après l'accident. Les conséquences environnementales, à savoir le nombre d'animaux sauvages tués, blessés ou rendus impropres à la consommation humaine, le nombre de mètres cubes d'eau polluée, la surface de sol ou de nappe d'eau souterraine nécessitant un nettoyage ou une décontamination en hectares, la proportion d'espèces animales ou végétales rares ou protégées détruites ou éliminées par dommages aux biotopes dans la zone accidentée, et enfin, le plus important, les conséquences économiques qui s'expriment en millions d'euros. Le guide « Informer la société civile des incidents survenant dans les installations Céveso » du ministère de l'écologie et du développement durable, introduit par « La première mission des acteurs de la prévention des risques consiste bien sûr à réduire la fréquence et la gravité des accidents. Il serait cependant excessif de considérer que leur action permet d'éviter toute occurrence d'accident majeur. En septembre et octobre 2001, il y a eu 247 accidents ou incidents, dont 218 en France, qui ont été répertoriés dans la base de données ARIA, gérée par la Direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. Voici ce qui est rapporté concernant l'explosion de l'usine AZF du 21 septembre 2001 à Toulouse. La gravité des conséquences de cette explosion constitue pour les acteurs de la prévention des risques industriels une impérieuse raison supplémentaire d'accroître sans cesse vigilance et efficacité dans un domaine difficile et ingrat où les certitudes sont souvent relatives et les acquis rarement définitifs. La maîtrise des risques majeurs nécessite, outre de réduire à la source les conséquences potentielles des accidents, de diminuer les possibilités d'occurrence de risques résiduels sans toutefois accorder de confiance excessive à la fiabilité des dispositifs de sécurité, susceptibles d'insuffisances ou d'aléas techniques, organisationnels ou humains, mais bien de gérer l'urbanisation, l'organisation des secours et l'information des populations exposées. C'est de cette gestion-là que le management de crise vient apporter ses solutions. Ainsi, les Amis de la Terre Midi-Pyrénées ont décidé de claquer la porte de la commission locale d'information, CLI, de la centrale de Golfech en décembre 2007. Pour l'association, les actions de la CLI ont de plus en plus pour objectif d'accoutumer les riverains de la centrale nucléaire à l'idée d'un accident gravissime. En mai 2007, la commission a organisé un séminaire intitulé « Territoires et post-accidents nucléaires » qui abordait les différentes façons de réadapter les territoires contaminés et leurs habitants après une catastrophe nucléaire. Plutôt que de prendre des mesures pour contrer l'éventualité d'un danger mortel, les préoccupations semblent s'orienter vers la façon de gérer un accident nucléaire, hélas probable. Habituer les populations à l'éventualité de l'accident majeur compris comme inhérent à la production industrielle, énergétique et chimique, réadapter les territoires dévastés, nier les conséquences humaines et environnementales, c'est tout le défi de la com de crise. Faire accepter l'idée que l'accident est plus que probable, inéluctable, car l'erreur est humaine. Mais que chercher à l'éviter, c'est refuser le progrès, les avancées technologiques, la science. Bref, refuser l'accident technologique, c'est vouloir le retour à l'homme des cavernes. Les expériences du passé ne servent à rien. De Tchernobyl à Bhopal, de Seveso à AZF, les accidents plus ou moins graves se répètent et les vies humaines et l'environnement sont toujours sacrifiés sur l'autel du profit. Ainsi, la catastrophe de Bhopal, le 3 décembre 1984, en pleine nuit, une explosion survient dans l'usine de la compagnie Union Carbide, où l'on produit des pesticides. Près de 40 tonnes de gaz particulièrement toxique est alors relâchée dans l'atmosphère et se répand dans la zone résidentielle située à proximité de l'usine. Environ 200 000 personnes se trouvent exposées et plus de 3 000 d'entre elles décèdent en l'espace de 3 jours. D'après Amnesty International, entre 22 000 et 25 000 autres décès sont imputables à la catastrophe dans les 20 ans suivants. Union Carbide, l'exploitant de l'époque, a versé à l'État indien, après un accord à l'amiable hors tribunal, la somme de 470 milliards de dollars, soit une moyenne de 400 dollars par personne blessée, à peine de quoi couvrir les frais médicaux pendant 5 ans. En 2001, le nom d'Union Carbide a disparu lorsqu'elle a fusionné avec la société Dow Chemical. Une procédure lancée en 1999 devant la Cour de justice américaine de New York par des associations de victimes est toujours en cours pour faire nettoyer et assainir le site et les responsables sont toujours impunis. Dans une interview pour usinenouvelle.com parue le 21 septembre 2007 dans la catégorie développement durable, Loïc Buffard, chef de service régional à la DRIR Midi-Pyrénées, revient sur l'explosion d'AZF. À la question de savoir si un autre AZF est-il possible 6 ans après, il répond « Le risque zéro n'existe pas. Le problème aujourd'hui est la disparition progressive de la culture du risque à mesure que progresse la technicité des installations. La conscience du risque doit être permanente et réfléchie. C'est dans cette voie que nous progresserons pour arriver à une maîtrise des risques industriels plus qu'à une éradication. Une véritable culture du risque. Cela doit s'inculquer dès le plus jeune âge. C'est pour cela que l'équipe académique de Toulouse a préparé un dossier à l'usage des établissements scolaires sur la culture du risque dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté. L'éducation au risque majeur s'inscrit dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. Il s'agit de faire prendre conscience aux enfants, à nos élèves, que chacun doit être attentif à sa propre sauvegarde et contribuer à celle des autres en développant des comportements adaptés. L'éducation préventive aux risques majeurs naturels et technologiques conduit à construire une véritable culture du risque. La culture du risque partagé, c'est ce qu'ont adoré découvrir les Dunkerquois durant le débat public du terminal méthanier en janvier 2009. Ainsi, les promoteurs, industriels et élus locaux et certains représentants de l'État, au nom de cette culture du risque partagé, notons qu'il n'y a que le risque qui est partagé, pas les profits, estiment qu'à Dunkerque, la population est prête et est favorable à l'accumulation en rang d'oignons de sites Seveso. C'est les Dunkerquois qui sont contents d'être ainsi pris en otage par une poignée de technocrates. En 2006, il y avait 1204 sites classés Seveso en France et 58 réacteurs nucléaires, alors autant habituer la population à vivre dans une société où tout ça peut péter, parce que nous sommes cernés, et que les industriels sont les premiers à dire qu'ils sont incapables à prévenir un accident majeur. La culture du risque est le nouveau jouet idéologique des lobbies, industrie nucléaire, pétrolier, semencier transgénique, industriel de la chimie et gouvernant, qui permet de faire passer toutes les pilules. Au lieu de pointer du doigt les véritables causes des accidents, les vrais facteurs du risque qui sont bien identifiés, à savoir les industries énergétiques, avant les mines, aujourd'hui les sites nucléaires, la pétrochimie, l'agrochimie et l'armement, on noie les poissons entre communication de masse, cellules de crise, cohortes d'experts et management de crise, surmédiatisation, héroïsme des secours, tout ça pour mieux diluer les véritables responsabilités. La gestion de l'explosion d'AZF a été jusqu'au procès un déni de la gravité de l'accident et un refus de remettre en question une société à la botte des industries polluantes qui préfèrent laisser des sites se dégrader et mettre en danger les populations environnantes. D'autant que les populations en question étaient déjà considérées comme des citoyens de seconde zone. Quels sont les bâtiments qui ont été construits autour du site AZF? L'hôpital psychiatrique Marchand, puis les cités HLM. Le risque est le pendant inéluctable au progrès scientifique, chimique et énergétique, et bientôt nanotechnologique. Alors, que sont 30 morts, des quartiers populaires soufflés, des tonnes de poissons morts empoisonnés dans la Garonne, face au progrès que sont les engrais chimiques, le nucléaire et ses déchets, le téléphone portable, les OGM? Adopter une culture du risque pour ne pas être des objets du risque. Voilà le credo qu'un État industrialisé comme la France utilise pour faire accepter les catastrophes naturelles et les accidents technologiques. Ces événements sont expliqués, encadrés, contrôlés, gérés. Et dans les médias, un désastre en chasse un autre. Il s'agit d'une part de préparer les services de l'État, police, armée, secours et bons samaritains, humanitaire, à intervenir en cas de problème et de préparer d'autre part la population à l'éventualité des catastrophes. Ce conditionnement est indispensable pour nous faire oublier les causes de ces catastrophes et nous ôter tout moyen de les dénoncer.
Dans la banlieue de la ville rose, il s'est passé quelque chose. Il y avait les Indonia et maintenant elle n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Ben Laden, c'était l'industrie toulousaine. Tous les bons élus rappliquent, versaient leurs larmes publiques. Et d'une vibrante raison, ramener l'électeur à la raison. L'ouvrier, le prolétaire, mêlé au cadre vulgaire, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard. Des hautes sphères au bas-fond, l'étonnement est profond. On savait pas que le progrès faisait des bombes avec l'engrais. Était-ce bien ce qu'il fallait pour faire vendre du cassoulet? Sache qu'un de tes pires ennemis, prolétaire, c'est la chimie. Total Fina a tout fait pour déguiser les forfaits de ces sinistres chimistes accusant l'ouvrier fumiste. Libéraux et socialos, et même les bons écolos, à la solde de l'industrie, continuent à polluer nos vies. Combien d'ennemis faudra-t-il pour que le peuple servile se libère radicalement de la dictature de l'argent? Dans la banlieue toulousaine, c'est de la faute à pas de veine. L'avenir sans l'ammoniaque, on a la tête dans le cul-de-sac.